Chapitre 10, Monsieur d'Aiguillon prend sa revanche, où le lecteur retrouvera une de ses anciennes connaissances qu'il croyait perdue et que peut-être il ne regrettait pas, où les choses s'embrouillent de plus en plus. Le lendemain du jour où le terrible arrêt du Parlement avait empli de bruit Versailles et Paris, lorsque l'attente était grande pour tout le monde de savoir quelle serait la suite de cet arrêt, monsieur le duc de Richelieu, qui s'était transporté à Versailles et avait repris sa vie régulière, vit entrer chez lui Raffeté, tenant une lettre à la main. Le secrétaire flairait et pesait cette lettre avec un air d'inquiétude qui se communiqua promptement au maître. « Qu'est-ce encore, Raffeté ?» demanda le maréchal. « Quelque chose de peu agréable, j'imagine, monseigneur, ce qui est enfermé là-dedans. » Le duc étendit la main. « Donne, dit-il, je suis brave. « Je vous préviens, interrompit Raffeté, que l'huissier, en me remettant ce papier, a ri jusqu'au fond du gosier. « Diable, voilà qui est inquiétant. Donne toujours, répliqua le maréchal. » Et qu'il a ajouté, « Monsieur le duc d'Aiguillon recommande que monsieur le maréchal ait ce message sur le champ. » « Douleur, tu ne me feras pas dire que tu sois un mal !» s'écria le vieux maréchal en brisant le cachet d'une main ferme. Et il lut. « Le roi est bon, » dit-il au bout d'un instant. « Nomme monsieur d'Aiguillon ministre ? Mieux que cela. Oh, quoi donc ? Lis et commente. » Raffeté lut à son tour le billet. Il était écrit de la main même du duc d'Aiguillon et conçu en ces termes. « Mon cher oncle, votre bon conseil a porté ses fruits. J'ai confié mes chagrins à cette excellente amie de notre maison, Madame la Comtesse du Barry, qui a bien voulu déposer ma confidence dans le sein de Sa Majesté. Le roi s'est indigné des violences que me font messieurs du Parlement, à moi qui me suis employé si fidèlement à son service, et dans son conseil, ce jour même, Sa Majesté a cassé l'arrêt du Parlement et m'a enjoint de continuer mes fonctions de pair de France. Je vous envoie, mon cher oncle, sachant bien tout le plaisir que vous fera cette nouvelle, la teneur de la décision que Sa Majesté a prise en conseil aujourd'hui. Je l'ai fait copier par un secrétaire et vous en avez notification avant que ce soit au monde. » Veuillez croire à mon tendre respect, mon cher oncle, et me continuer vos bonnes grâces et vos bons conseils, signé duc d'Aiguillon. « Il se moque de moi par-dessus le marché !» s'écria Richelieu. « Ma foi, je crois que oui, monseigneur. Le roi qui se jette dans ce guépier. Vous ne vouliez pas le croire hier. Je n'ai pas dit qu'il ne s'y jetterait pas, monsieur Raffeté. J'ai dit qu'il s'en tirerait. Or, tu vois qu'il s'en tire. » Le fait est que le Parlement est battu. Moi aussi, pour le moment, oui. Pour toujours. Hier, je le pressentais, et tu m'as tant consolé qu'il ne pouvait manquer de m'arriver des désagréments. Monseigneur, vous vous découragez un peu tôt, ce me semble. Maître Raffeté, vous êtes un niais. Je suis battu et je paierai l'amende. Vous ne comprenez peut-être pas tout ce qu'il y a de désagréable pour moi à être la risée de Lucienne. À l'heure qu'il est, le duc me raille les bras de Madame du Barry. Mademoiselle Chon et Monsieur du Barry font des gorges chaudes à mon endroit. Le négrillon se bourre de bonbons en me faisant la nique. Ah, corbleu, j'ai bon caractère, mais tout cela me rend furieux. Furieux, monseigneur ? J'ai dit le mot, furieux. Alors, il ne fallait pas faire ce que vous avez fait, répliqua philosophiquement Raffeté. Hein, vous m'y avez poussé, monsieur le secrétaire. Moi ? Oui, vous. Et qu'est-ce que cela me fait, moi, que M. d'Aiguillon soit ou ne soit pas pair de France ? Je vous le demande, monseigneur. Votre neveu ne me fait pas tort, ce me semble. M. Raffeté, vous êtes un impertinent. Il y a 49 ans que vous me le dites, monseigneur. Et je vous le répéterai encore. Pas 49 ans, voilà ce qui me rassure. Raffeté, si c'est comme cela que vous prenez mes intérêts... Les intérêts de votre petite passion, non, monsieur le duc, jamais. Vous faites, tout homme d'esprit que vous êtes, des sottises que je ne pardonnerai pas à un cuistre tel que moi. Expliquez-vous, monsieur Raffeté, si j'ai tort, je l'avouerai. Il vous a fallu hier une vengeance, n'est-ce pas ? Vous avez voulu voir l'humiliation de votre neveu. Vous avez voulu apporter en quelque sorte l'arrêt du Parlement et compter les tressaillements et les palpitations de votre victime, comme dit monsieur de Crébillon le fils. Eh bien, monsieur le maréchal, ces spectacles-là se paient gros, ces satisfactions se coûtent cher. Vous êtes riche, payez, monsieur le maréchal, payez. Qu'eût-il fait à ma place, vous, monsieur le bel esprit? Voyons. Rien, j'eusse attendu sans donner signe de vie, mais il vous démangeait d'opposer le Parlement à la du Barry, du moment où la du Barry trouvait monsieur d'Aiguillon plus jeune que vous. Un grognement du maréchal fut sa réponse. Eh bien, poursuivit Rafté, le Parlement était assez soufflé pour vous faire ce qu'il a fait. L'arrêt lancé, vous offriez vos services à votre neveu, qui ne se fût douté de rien. Cela est bel et bon, j'admets que j'ai eu tort, mais alors vous deviez m'avertir. Moi, empêché de faire le mal, vous me prenez pour un autre, monsieur le maréchal. Vous répétez à tout venant que je suis votre créature, vous m'avez dressé, et vous voudriez que je ne fusse pas ravi de voir se faire une sottise ou arriver un malheur. Allons donc. Il arrivera un malheur, alors, monsieur le sorcier. Ben, certainement. Et lequel? C'est que vous vous entêterez et que monsieur d'Aiguillon prendra le joint entre le Parlement et madame du Barry. Ce jour-là, il sera ministre et vous exilé ou à la Bastille. Le maréchal renversa de fureur tout le contenu de sa tabatière sur le tapis. À la Bastille, dit-il, en secouant les épaules. Est-ce que Louis XV et Louis XIV? Non, mais madame du Barry, doublée de monsieur d'Aiguillon, vaudra madame de Maintenon. Prenez-y garde, et je ne sache pas aujourd'hui de princesse de sang qui vous y aille porter des bonbons et la petite oie. Voilà bien des pronostics, répliqua le maréchal après un long silence. Vous lisez dans l'avenir, mais pour le présent, s'il vous plaît. Monsieur le maréchal est trop sage pour qu'on lui donne des conseils. « Dis donc, monsieur le drôle, ne vas-tu pas aussi te moquer de moi ?»« Fais attention, monsieur le maréchal, que vous confondez les dates. On n'appelle plus un drôle un homme passé 40 ans, et j'en ai 67. Hein. »« N'importe, sors-moi de là, et vite, vite !»« Par un conseil ?»« Par ce que tu voudras. »« Il n'est pas temps encore. »« Décidément, tu fais le plaisant. » Plût à Dieu, si je faisais le plaisant, c'est que la circonstance serait plaisante, et malheureusement, elle ne l'est pas. Qu'est-ce que cette défaite, il n'est pas temps? Non, monseigneur, il n'est pas temps. Si la notification de l'arrêté du roi était parvenue à Paris, je ne dis pas. Voulez-vous que nous expédions un courrier à monsieur le président d'Aligre, pour qu'on se moque plutôt de nous? Quel amour-propre ridicule, monsieur le maréchal! Vous feriez perdre la tête à un saint. Tenez, laissez-moi finir mon plan de descente en Angleterre et achevez de vous noyer dans votre intrigue de portefeuille, puisque la besogne est à moitié faite. Le maréchal connaissait les humeurs noires de monsieur Rafté. Il savait qu'une fois sa mélancolie déclarée, le secrétaire n'était plus bon à toucher avec des pincettes. « Voyons, ne me boude pas, dit-il, et si je ne comprends pas, fais-moi comprendre. » Alors, monseigneur veut que je lui trace un plan de conduite. Mais certainement, puisque tu prétends que je ne sais pas me conduire moi-même. Eh bien, soit, écoutez donc. J'écoute. Vous enverrez à monsieur d'Aligre, dit Rafté, dans ton bru, la lettre de monsieur d'Aiguillon. Vous y joindrez l'arrêté pris par le roi en son conseil. Vous attendrez que le Parlement se soit assemblé là-dessus et en ait délibéré, ce qui arrivera immédiatement. Ensuite de quoi, vous monterez en carrosse et irez rendre une petite visite à votre procureur, maître Flageot. « Plaît-il ? » s'écria Richelieu, que ce nom fit bondir comme la veille. « Encore, monsieur Flageot ! Que diable monsieur Flageot a-t-il à voir en tout ceci ? Et qu'irais-je, moi, faire chez un maître Flageot ?»« J'ai eu l'honneur de vous dire, monseigneur, que maître Flageot était votre procureur. »« Eh bien, après ?»« Eh bien... » S'il est votre procureur, il y a des sacs à vous, des procès quelconques, vous irez lui demander des nouvelles de vos procès. Demain? Mais oui, monsieur le maréchal, demain. C'est votre affaire, cela, monsieur Rafté. Non pas, non pas. Bon, quand maître Flageot était un simple gratte-papier, alors je pouvais traiter d'égal à égal avec lui, mais comme à partir de demain, maître Flageot est un Attila, un fléau des rois, ni plus ni moins. Ce n'est pas trop d'un duc et pair, maréchal de France, pour conférer avec ce tout-puissant. Tout cela est sérieux, ou jouons-nous la comédie? Vous verrez demain si c'est sérieux, monseigneur. Mais encore, dis-moi ce qui m'arrivera chez ton maître Flageot. J'en serais bien fâché. Vous voudriez me prouver demain que vous aviez deviné d'avance. Bonsoir, monsieur le maréchal. Rappelez-vous ceci. Un courrier à monsieur Daligre tout de suite, une visite à maître Flageot demain. Ah, l'adresse, le cocher la sait. Il m'y a conduit assez de fois depuis 8 jours. Le lecteur nous demandera sans doute pourquoi maître Flageot, qui va jouer un si majestueux rôle, était appelé procureur au lieu d'avocat. Le lecteur ayant raison, nous ferons droit à sa requête. Les vacances étaient depuis quelque temps réitérées au Parlement, et les avocats plaidaient si peu que ce n'était pas la peine d'en parler. Maître Flageot, prévoyant le moment où l'on ne plaiderait plus du tout, fit quelques arrangements avec maître Guildou, le procureur, qui lui céda son étude et sa clientèle, moyennant la somme de 25 000 livres une fois donnée. Voilà comment maître Flageot se trouve être procureur. Que si on nous demande maintenant comment il paya les 25 000 livres, nous répondrons que ce fut en épousant mademoiselle Marguerite, à qui cette somme échut en héritage vers la fin de l'année 1770, 3 mois avant l'exil de monsieur de Choiseul. Maître Flageot, depuis longtemps, s'était fait remarquer par sa persévérance à tenir le parti de l'opposition. Une fois procureur, il redoubla de violence et, à cette violence, gagna quelque célébrité. Ce fut cette célébrité, jointe à la publication d'un mémoire incendiaire sur le conflit de monsieur d'Aiguillon avec monsieur de la Chalotais, qui attira l'attention de monsieur Raffetet, lequel avait besoin de se tenir au courant des affaires du Parlement. Mais, malgré sa dignité nouvelle et son importance croissante, maître Flageot ne quitta pas la rue du Petit Lion Saint-Sauveur. Il eût été trop cruel à mademoiselle Marguerite de ne pas s'entendre appeler madame Flageot par les voisines, de ne pas être respectée par les clercs de maître Guildou, passé au service du nouveau procureur. On devine ce que monsieur de Richelieu souffrait en traversant Paris, le Paris nauséabond de cette zone, pour aborder ce trou puné que l'édilité parisienne décorait du nom de rue. Devant la porte de maître Flageot, le carrosse de monsieur de Richelieu fut arrêté par un autre carrosse qui s'arrêtait aussi. Le maréchal aperçut une coiffure de femme qui descendait de cette voiture, et comme ses 75 ans ne l'avaient pas rebuté du métier de galant, il se hâta de plonger les pieds dans la boue noire pour aller offrir la main à cette dame qui descendait seule. Mais ce jour-là, le maréchal jouait de malheur. Une jambe sèche et rugueuse qui s'allongea sur le marchepied trahit une vieille femme. Un visage ridé, tanné sous une ligne de rouge, acheva de lui prouver que cette femme était non seulement vieille, mais décrépite. Il n'y avait cependant pas à reculer. Le maréchal avait fait le mouvement et le mouvement avait été vu. D'ailleurs, monsieur de Richelieu n'était pas jeune. Cependant, la plaideuse, car quelle femme à voiture fût venue en cette rue si elle n'eût été une plaideuse, cependant, disons-nous, la plaideuse n'imita point l'hésitation du duc. Elle déposa avec un horrible sourire sa patte dans la main de Richelieu. J'ai vu cette figure-là quelque part, dit tout bas le maréchal, et tout haut. Est-ce que madame monte aussi chez maître Flageot? Demanda-t-il. Oui, monsieur le duc, répliqua la vieille. Oh, j'ai l'honneur d'être connu de vous, madame, s'écria le duc, désagréablement surpris, en s'arrêtant sur le seuil de l'allée noire. Qui ne connaît monsieur le maréchal duc de Richelieu? Fut-il répondu. Il faudrait ne pas être femme. Cette guenon croit donc qu'elle est une femme, murmura le vainqueur de Mahon. Et il salua le plus gracieusement du monde. Si j'osais demander à mon tour, ajouta-t-il, à qui j'ai l'honneur de parler? Je suis la comtesse de Béarn, votre servante, répondit la vieille en faisant une révérence de cour sur le plancher boueux de l'allée, à 3 pouces d'une trappe ouverte dans laquelle le maréchal s'attendait méchamment à la voir disparaître à son troisième plié. Enchantée, madame, ravie, dit-il, et je rends 1 000 grâces au hasard. Vous avez donc aussi des procès, madame la comtesse? Eh, monsieur le duc, je n'en ai qu'un, mais quel procès? Il n'est pas que vous n'en ayez entendu parler. Fort bien, ce grand procès, c'est vrai. Comment diable avais-je oublié cela? Contre les Saluces, oui, madame la comtesse, ce procès sur lequel on a fait cette chanson. Une chanson? Dit la vieille piquée. Quelle chanson? Prenez garde, madame, il y a ici un renfoncement, dit le duc, qui vit que décidément la vieille ne se jetterait pas dans le trou. Prenez la rampe, c'est-à-dire la corde. La vieille monta les premières marches, le duc la suivit. Oui, une chanson assez drôle, dit-il. Une chanson assez drôle, c'est mon procès. Dame, je vous en fais juge, mais vous la connaissez peut-être. Pas du tout. C'est sur l'air de la Bourbonnaise. Il y est dit, madame la comtesse, faites-moi la politesse, je suis dans l'embarras. C'est madame du Barry qui parle, vous entendez? C'est impertinent pour elle. Que voulez-vous? Les chansonniers ne respectent rien. Dieu, que cette corde est grasse. Alors, vous répondez ceci, je suis vieille et têtue, un gros possé me tue, qui me le gagnera? « Monsieur, c'est affreux !» s'écria la comtesse. « On n'outrage pas ainsi une femme de qualité !»« Madame, excusez-moi si j'ai chanté faux, cet escalier m'échauffe. Enfin, nous voici arrivés. Permettez que je tire le pied de biche. » La veille laissa passer en grommelant le duc devant elle. Le maréchal sonna, et madame Flageot, qui pour être devenue procureuse, n'avait pas cessé d'être portière et cuisinière, vint ouvrir la porte. Les deux plaideurs, introduits dans le cabinet de maître Flageot, trouvèrent un homme furieux qui s'escrimait, la plume aux dents, à dicter un factum terrible à son premier clerc. « Mon Dieu, monsieur Flageot, qu'y a-t-il donc ? » s'écria la comtesse, dont la voix fit retourner le procureur. « Ah, madame, serviteur de tout mon cœur, un siège à madame la comtesse de Béarn. Monsieur est avec vous, madame ? Si je ne me trompe, monsieur de Richelieu, chez moi, un autre siège, Bernardet, un autre siège. « Maître Flageot, dit la comtesse, où en est mon procès, je vous prie ?»« Ah, madame, justement, je m'occupais de vous à 7 heures. »« Fort bien, maître Flageot, fort bien. »« Et d'une façon, madame la comtesse, qui fera du bruit, je l'espère. »« Prenez garde. Oh, madame, il n'y a plus rien à ménager. » Si vous vous occupez de moi, alors vous pouvez donner audience à monsieur le duc. Monsieur le duc, excusez-moi, dit maître Flageot, vous êtes trop galant pour ne pas comprendre. Je comprends, maître Flageot, je comprends. Maintenant, je suis tout à vous. Soyez tranquille, je n'abuserai pas. Vous savez ce qui m'amène. Les sacs que monsieur Raffeté m'a remis l'autre jour. Quelques pièces de mon procès de... à mon procès du... Oh, que diable! Vous devez savoir de quel procès je veux parler, maître Flageot. De votre procès de la terre de Chapenat. Je ne dis pas non, et me ferez-vous gagner? Voyons, ce serait bien gracieux de votre part. Monsieur le duc, c'est une affaire remise indéfiniment. Et bon, pourquoi? Cela ne se plaidera pas avant 1 an, au moins. La raison, s'il vous plaît. Les circonstances, monsieur le duc, les circonstances. Vous connaissez l'arrêté de Sa Majesté. Je crois que oui. Lequel, Sa Majesté, rend beaucoup d'arrêtés. Et celui qui annule le nôtre. Très bien, après. Eh bien, monsieur le duc, nous y répondrons en brûlant nos vaisseaux. En brûlant vos vaisseaux, mon cher, vous brûlerez les vaisseaux du Parlement. Voilà qui n'est pas parfaitement clair, et j'ignorais que le Parlement eût des vaisseaux. La première chambre refuse d'enregistrer, peut-être, demanda madame de Béarn, que le procès de monsieur de Richelieu ne distrayait en aucune façon du sien. Mieux que cela, la seconde-ci, ce ne serait rien. Les deux chambres ont pris la résolution de ne plus rien juger avant que le roi ait retiré monsieur d'Aiguillon. « Bah !» s'écria le maréchal en frappant des mains. « Ne plus juger, quoi ?» demanda la comtesse émue. « Mais les procès, madame ?»« On ne jugerait pas mon procès, à moi ?» s'écria madame de Béarn avec une terreur qu'elle ne cherchait même plus à dissimuler. « Pas plus le vôtre, madame, que celui de monsieur le duc. Mais c'est inique, c'est de la rébellion aux ordres de Sa Majesté, ça. Madame, répliqua le procureur majestueusement, le roi s'est oublié, nous nous oublions aussi. Monsieur Flageot, vous vous ferez mettre à la Bastille, c'est moi qui vous le dis. Ah, j'irai en chantant, madame, et si j'y vais, tous mes confrères m'y suivront en portant des palmes. » « Il est enragé !» dit la comtesse à Richelieu. « Oh, nous sommes tous comme cela !» répliqua le procureur. Oh, fit le maréchal, cela devient curieux. Oui, monsieur, vous m'avez dit tout à l'heure que vous vous occupiez de moi, reprit madame de Béarn. Je l'ai dit, et c'est vrai, vous êtes, madame, le premier exemple que je cite dans ma narration. Voici le paragraphe qui vous concerne. Et il arracha des mains de son clerc le factum commencé, pinça son nez avec ses lunettes et lut avec emphase. Leur état perdu, leur fortune compromise, leurs droits foulés aux pieds. Sa Majesté comprendra combien ils ont dû souffrir. Ainsi, l'exposant y tenait entre ses mains une importante affaire de laquelle dépend la fortune d'une des premières maisons du royaume. Par ses soins, par son industrie, par son talent, il ose le dire, cette affaire marchait à bien, et le droit de la très haute et très puissante dame Angélique Charlotte Véronique, comtesse de Béarn, allait être reconnu, proclamé, lorsque le soufre de la discorde s'engouffrant. J'en suis resté là, madame, dit le procureur en se rengorgeant, et je crois que la figure sera belle. Ah, monsieur Flageot, dit la comtesse de Béarn, il y a 40 ans que je fis officier pour la première fois, monsieur votre père, digne homme s'il en fut, et je vous continuais ma clientèle. Vous avez gagné 10 ou 12 000 livres avec mes affaires, vous en eussiez gagné autant encore peut-être, hein. Écrivez, écrivez tout cela, dit vivement Flageot à son clerc. C'est un témoignage, c'est une preuve. On l'insérera à la confirmation. Or, interrompit la comtesse, je vous retire mes dossiers. À partir de ce moment, vous avez perdu ma confiance. Maître Flageot, frappé de cette disgrâce comme d'un coup de foudre, resta un moment stupéfait, mais se relevant sous le coup comme un martyr qui confesse son Dieu. Soit, dit-il, Bernardet, rendez les dossiers à madame, et vous considérez ce fait, ajouta-t-il, que l'exposant a préféré sa conscience à sa fortune. Pardon, comtesse, glissa le maréchal à l'oreille de madame de Béarn, mais vous n'avez pas réfléchi, ce me semble. À quoi, monsieur le duc? Vous retirez vos dossiers à ce brave protestant, mais pourquoi faire? Pour les porter à un autre procureur, à un autre avocat, s'écria la comtesse. Maître Flageot leva les yeux au ciel avec un funèbre sourire d'abnégation, de résignation stoïque. Mais, continua le maréchal, toujours parlant à l'oreille de la comtesse, puisqu'il est décidé que les chambres ne jugeront rien, ma chère madame, un autre procureur n'occupera pas plus pour vous que Maître Flageot. Mais c'est une ligue, alors. Et pardieu, croyez-vous, maître Flageot, assez bête pour se faire protestant tout seul, pour perdre son étude tout seul, si ses confrères ne devaient pas faire comme lui et par conséquent le soutenir? Mais vous, monsieur, que faites-vous? Moi, je déclare que maître Flageot est un fort honnête procureur et que mes dossiers sont aussi bien chez lui que chez moi. En conséquence, je le lui laisse tout en le payant, bien entendu, comme s'il poursuivait. On dit avec raison, monsieur le maréchal, que vous êtes un esprit généreux, libéral, s'écria maître Flageot. J'en propagerai la renommée, monsieur le duc. Vous me comblez, mon cher procureur, répondit Richelieu en s'inclinant. Bernardet, cria le procureur enthousiasmé à son clerc, vous insérerez à la péroraison l'éloge de monsieur le maréchal de Richelieu. Non pas, maître Flageot, je vous en supplie, répliqua vivement le maréchal. Oh diable, qu'allez-vous faire là? J'aime le secret pour ce qu'on est convenu d'appeler une bonne action. Ne me désobligez pas, maître Flageot, je n'irai, voyez-vous, je démentirai. Ma modestie est susceptible. Voyons, comtesse, que dites-vous? Je dis que mon procès sera jugé, qu'il me faut un jugement et je l'aurai. Et moi, je dis que si votre procès est jugé, madame, c'est que le roi aura envoyé les Suisses, les chevaux légers et 20 pièces de canon dans la grande salle, répondit maître Flageot d'un air belliqueux qui acheva de consterner la plaideuse. Vous ne croyez pas alors que Sa Majesté puisse sortir de ce pas? Dit tout bas Richelieu à Flageot. Impossible, monsieur le maréchal, c'est un cas inouï, plus de justice en France, c'est comme s'il n'y avait plus de pain. Croyez-vous? Vous verrez, mais le roi se fâchera, nous sommes résolus à tout, même à l'exil, même à la mort, monsieur le maréchal, parce qu'on porte une robe, on n'en a pas moins de cœur. Et monsieur Flageot frappa vigoureusement sa poitrine. En effet, dit Richelieu à sa compagne, je crois, madame, que voilà un mauvais pas pour le ministère. Oh oui, répondit après un silence la vieille comtesse, et il est bien triste pour moi, qui ne me mêle en rien à tout ce qui se passe, de me trouver prise dans ce conflit. Mais d'avis, madame, dit le maréchal, qu'il existe de par le monde quelqu'un qui vous aiderait en cette affaire, quelqu'un de bien puissant, mais cette personne voudra-t-elle, est-ce trop de curiosité, monsieur le duc, que de vous demander le nom de cette personne? Votre filleule, dit le duc. Oh, madame du Barry, elle-même. Ah, au fait, c'est vrai, vous me donnez une idée. Le duc se mordit les lèvres. Vous irez à Lucienne, dit-il. Ah, sans balancer. Mais la comtesse du Barry ne brisera pas l'opposition du Parlement. Ah, je lui dirai que je veux voir mon procès jugé, et comme elle ne peut rien me refuser, après le service que je lui ai rendu, elle dira au roi que la chose lui plaît. Sa Majesté parlera au chancelier, et le chancelier a le bras long, monsieur le duc. Maître Flageot, faites-moi le plaisir de bien étudier mon affaire. Elle arrivera au rôle plus tôt que vous ne croyez, c'est moi qui vous le dis. Maître Flageot tourna la tête avec une incrédulité qui ne fit pas revenir la comtesse. Cependant, le duc avait réfléchi. Eh bien, puisque vous avez à Lucienne, madame, voudrez-vous bien y présenter mes très humbles respects? Très volontiers, monsieur le duc. Nous sommes compagnons d'infortune. Votre procès est en souffrance, le mien aussi. En priant pour vous, vous priez pour moi. En outre, vous pourriez témoigner là-bas du déplaisir que me cause cette tête carrée du Parlement. Vous ajouteriez que c'est moi qui vous ai donné le conseil de recourir à la divinité de Lucienne. Je n'y manquerai pas, monsieur le duc. Adieu, messieurs. Faites-moi l'honneur d'accepter ma main pour rejoindre votre carrosse. Encore une fois, adieu, maître Flageot. Je vous laisse à vos occupations. Le maréchal reconduisit la comtesse à sa voiture. Raffeté avait raison, dit-il. Les Flageots vont faire une révolution. Ah, Dieu merci, me voici étayé sur les deux côtés. Je suis de la cour et je suis parlementaire. Madame du Barry va s'engager dans la politique et tomber toute seule. Si elle résiste, j'ai ma petite mine de Trianon. Ah, décidément, ce diable de Rafeté est de mon école et j'en ferai mon chef de cabinet le jour où je serai ministre. Madame de Béarn profita littéralement du conseil de Richelieu. 2 heures et demie après que le duc l'eut quittée, elle faisait antichambre à Lucienne dans la société de Monsieur Zamore. Il y avait déjà quelque temps qu'on ne l'avait vue chez Madame du Barry. Aussi, sa présence produisit-elle un effet de curiosité dans le boudoir de la comtesse où son nom fut annoncé. Monsieur d'Aiguillon non plus n'avait pas perdu son temps et il complotait avec la favorite lorsque Chon vint demander audience pour Madame de Béarn. Le duc voulait se retirer, mais Madame du Barry le retint. J'aime mieux que vous soyez là, dit-elle, au cas où ma vieille quêteuse viendrait me faire un emprunt. Vous me seriez fort utile, elle demandera moins. Le duc demeura. Madame de Béarn, avec un visage composé pour la circonstance, prit en face de la comtesse le fauteuil que celle-ci lui offrit, et les premières civilités furent échangées. Puis-je savoir quelle bonne chance vous amène, madame? Demanda Madame du Barry. Ah, madame, dit la vieille plaideuse, un grand malheur. Quoi donc, madame? Une nouvelle qui affligera beaucoup Sa Majesté. Et dites vite, madame, les parlements. Grommela le duc d'Aiguillon. Monsieur le duc d'Aiguillon, se hâta de dire la comtesse en présentant son hôte à sa visiteuse, dans la crainte de quelque malentendu. Mais la vieille comtesse était aussi fine que tous les courtisans réunis, et elle ne faisait de malentendus qu'à bon escient et lorsque le malentendu lui paraissait utile. Je sais, dit-elle, toutes les turpitudes de ces Robins et leur peu de respect pour le mérite et la naissance. Ce compliment, décoché à bout portant sur le duc, attira un beau salut de celui-ci à la plaideuse qui se leva et le lui rendit. Mais, poursuivit-elle, ce n'est plus de monsieur le duc qu'il s'agit, c'est de la population tout entière. Les parlements refusent de fonctionner. En vérité, s'écria madame du Barry, en se renversant sous le sofa, il n'y aura plus de justice en France. Eh bien, après, quel changement cela fera-t-il? Le duc sourit. Madame de Béarn, au lieu de prendre plaisamment la chose, assombrit encore plus son visage morose. C'est un grand désastre, madame, dit-elle. Bon, vraiment, répondit la favorite. On voit bien, madame la comtesse, que vous avez le bonheur de n'avoir pas de procès. Fit monsieur d'Aiguillon pour appeler l'attention de madame du Barry, qui comprit enfin l'insinuation de la plaideuse. Hélas, madame, dit-elle sur-le-champ, c'est vrai. Vous me rappelez que si je n'ai pas de procès, vous avez un procès bien important, vous. Oui, madame, et tout retard me sera ruineux. Ah, pauvre dame. Il faudrait, madame la comtesse, que le roi prît une résolution. Eh, madame, sa majesté y est fort disposée. Elle exilera messieurs les conseillers, tout sera dit. Mais alors, madame, c'est un ajournement définitif. Voyez-vous un remède, madame? Veuillez nous l'indiquer. La plaideuse se coiffa sous ses coiffes comme César expirant sous sa toge. Il y aurait bien un moyen, dit alors d'Aiguillon, mais sa majesté reculera peut-être à l'employé. Lequel? Dit la plaideuse avec anxiété. La ressource ordinaire de la royauté, lorsqu'elle est un peu gênée en France, c'est de tenir un lit de justice et de dire je veux, alors que tous les opposants pensent je ne veux pas. Excellente idée! S'écria madame de Béarn avec enthousiasme. Mais qu'il ne faudrait pas divulguer, répliqua finement d'Aiguillon, avec un geste que comprit madame de Béarn. Oh, madame, dit alors la plaideuse, madame, vous qui pouvez tant sur sa majesté, obtenez qu'elle dise, je veux qu'on juge le procès de madame de Béarn. D'ailleurs, vous le savez, c'est chose promise et depuis longtemps. Monsieur d'Aiguillon se pinça les lèvres, salua madame du Barry et quitta le boudoir. Il venait d'entendre dans la cour le carrosse du roi. Voici le roi, dit madame du Barry en se levant pour congédier la plaideuse. Oh, madame, pourquoi ne me permettriez-vous pas de me jeter aux pieds de sa majesté pour lui demander un lit de justice? Je le veux bien, répliqua vivement la comtesse. Demeurez ici, madame, puisque tel est votre désir. À peine madame de Béarn avait-elle rajusté ses coiffes que le roi entra. Ah, dit-il, vous avez des visites, comtesse? Madame de Béarn, sire. Sire, justice! S'écria la vieille dame en faisant une profonde révérence. Oh! S'écria Louis XV avec un persiflage inintelligible pour quiconque ne le connaissait pas. Quelqu'un vous aurait-il offensé, madame? Sire, je demande justice. Et contre qui? Contre le Parlement. Ah bon? Fit le roi en frappant dans ses mains. Vous vous plaignez de mes parlements? Eh bien, faites-moi donc le plaisir de le remettre à la raison. J'ai aussi à m'en plaindre, moi, et je vous demande justice également, ajouta-t-il en imitant la révérence de la vieille comtesse. Mais sire, enfin, vous êtes le roi, vous êtes le maître. Le roi, oui, le maître, pas toujours. Sire, exprimez votre volonté. C'est ce que je fais tous les soirs, madame, et eux, tous les matins, expriment aussi leur volonté. Et comme ces deux volontés sont diamétralement opposées l'une à l'autre, il en est de nous comme de la terre et de la lune, qui courent éternellement l'une après l'autre, sans jamais se rencontrer. Sire, votre voix est assez puissante pour couvrir toutes les criailleries de ces gens-là. C'est ce qui vous trompe. Je ne suis pas avocat, moi, et eux le sont. Si je dis oui, ils disent non. Impossible de s'entendre. Ah, si quand j'ai dit oui, vous trouvez un moyen pour les empêcher de dire non, je fais alliance avec vous. Sire, ce moyen, je l'ai. Donnez-le-moi tout de suite. Ainsi ferai-je, sire. Tenez, un lit de justice. Ah, voilà bien un autre embarras, dit le roi, un lit de justice. Y pensez-vous, madame, c'est quasi une révolution. C'est un moyen de dire en face à ces gens rebelles que vous êtes le maître. Vous savez, sire, que le roi, lorsqu'il manifeste sa volonté, a seul le droit de parler, nul ne répond. Vous leur direz je veux, et ils baisseront la tête. Le fait est, dit la comtesse du Barry, que l'idée est pompeuse. Pompeuse, oui, répliqua Louis XV, bonne, non. C'est cependant beau, poursuivit madame du Barry avec chaleur, le cortège, les gentilshommes, les pairs, toute la maison militaire du roi, puis une immense quantité de peuple, puis ce lit de justice composé de cinq oreillers, fleurdelysés d'or. Ah, ce serait une belle cérémonie. Vous croyez, dit le roi, un peu ébranlé dans ses convictions. Et le magnifique habit du roi, le manteau doublé d'hermine, les diamants de la couronne, le sceptre d'or, tout cet éclat qui convient à un visage auguste et beau. Oh, que vous soyez splendide ainsi, sire. Il y a fort longtemps qu'on n'a pas vu de lit de justice, dit Louis XV, avec une nonchalance affectée. Depuis votre enfance, sire, dit madame de Béarn, le souvenir de votre resplendissante beauté est resté dans tous les cœurs. Et puis, ajouta madame du Barry, ce serait une bonne occasion pour monsieur le chancelier de déployer sa rude et concise éloquence pour écraser ces gens-là sous la vérité, sous la dignité, sous l'autorité. Il faudra que j'attende le premier méfait du Parlement, dit Louis XV, alors je verrai. Mais qu'attendriez-vous donc, sire, de plus énorme que ce qu'il vient de faire? Qu'a-t-il fait, voyons? Vous ne le savez pas? Il a un peu taquiné monsieur d'Aiguillon, ce n'est pas un cap pendable. Bien que, fit le roi en regardant madame du Barry, bien que ce cher duc soit de mes amis. Or, si les parlements ont taquiné le duc, j'ai réparé leur méchanceté par mon arrêté d'hier ou d'avant-hier, je ne me souviens plus. Nous voilà donc manche à manche. Eh bien, sire, dit vivement madame du Barry, madame la comtesse venait nous annoncer que ce matin, ces messieurs noirs prennent la belle. Comment cela? Dit le roi en fronçant le sourcil. Parlez, madame, le roi permet, dit la favorite. Sire, messieurs les conseillers ont résolu de ne plus tenir la cour du Parlement jusqu'à ce que votre majesté leur ait donné gain de cause. Plaît-il? Dit le roi, vous vous trompez, madame, ce serait un acte de rébellion, et mon Parlement n'osera pas se révolter, j'espère. Sire, je vous assure. Oh, madame, ce sont des bruits. Votre majesté veut-elle m'entendre? Parlez, comtesse. Eh bien, mon procureur m'a rendu ce matin le dossier de mon procès. Il ne plaide plus parce qu'on ne juge plus. Bruit, vous dis-je, j'essaie, épouvantail. Et tout en disant cela, le roi se promenait tout agité dans le boudoir. Si votre majesté croira-t-elle monsieur de Richelieu plus que moi, eh bien, on a rendu en ma présence à monsieur de Richelieu les sacs du procès, comme moi, et monsieur le duc s'est retiré, eh bien, courroucé. On gratte à la porte, dit le roi, pour changer la conversation. C'est Zamore, sire. Zamore entra. Maîtresse, une lettre, dit-il. Vous permettez, sire? Demanda la comtesse. Ah, mon Dieu! dit-elle tout à coup. Quoi donc? De monsieur le chancelier, sire, monsieur de Maupeou, sachant que votre majesté a bien voulu me visiter, sollicite mon intervention pour obtenir un moment d'audience. Ah, qu'y a-t-il encore? Faites entrer monsieur le chancelier, dit madame du Barry. La comtesse de Béarn se leva et voulut prendre congé. Vous n'êtes pas trop, madame, lui dit le roi. Bonjour, monsieur de Maupeou, quoi de nouveau? Sire, dit en s'inclinant le chancelier, le parlement vous gênait, vous n'avez plus de parlement. Comment cela? Sont-ils tous morts? Ont-ils mangé de l'arsenic? Plutôt au ciel, non, sire, ils vivent, mais ils ne veulent plus siéger et donnent leur démission. Je viens de les recevoir en masse. Les conseillers, non, sire, les démissions. Quand je vous disais, sire, que c'était sérieux, dit la comtesse à mi-voix. Très sérieux, répondit Louis XV avec impatience. Eh bien, monsieur le chancelier, qu'avez-vous fait? Sire, je suis venu prendre les ordres de votre majesté. Exilons ces gens-là, Maupeou. Sire, ils ne jugeront pas davantage en exil. Enjoignons-leur de juger. Bah, les injections sont usées, les lettres de jusion aussi. Ah, sire, il faut cette fois montrer de la volonté. Oui, vous avez raison. Courage, dit tout bas madame de Béarn à madame du Barry. Et montrez le maître, après avoir trop souvent montré le père, s'écria la comtesse. Chancelier, dit lentement le roi, ne c'est plus qu'un moyen, il est grave mais efficace, je veux tenir un lit de justice, il faut que ces gens-là tremblent une bonne fois. Ah, sire, s'écria le chancelier, voilà parler, qu'ils plient ou qu'ils rompent. Madame, ajouta le roi en s'adressant à la plaideuse, si votre procès n'est pas jugé, vous le voyez, ce ne sera pas de ma faute. Ah, sire, vous êtes le plus grand roi du monde. Oui, dirent en écho, et la comtesse Échon et le chancelier. Ce n'est cependant pas ce que tout le monde dit, murmura le roi.